Sunwa Assurance, présente dans plus de 14 pays d'Afrique, assure la pleine forme de tous nos champions et championnes d'Afrique. Suivez Priorité Santé. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Lorsque l'on parle de santé publique, il est question d'évaluation de la situation comme de la réaction apportée à l'issue de cet état des lieux. Mesurer, identifier pour adapter de façon pertinente les réponses et traiter, soulager, protéger les populations. Une ambition sur le long terme lorsque ces maladies sont installées de longue date et posent au corps médical des questions complexes et toujours sans réponse. S'ajoute la prise en charge des populations confrontées à des pathologies plus récentes, maladies non transmissibles, maladies émergentes aussi, qui ajoutent au risque infectieux la dimension émotionnelle associée à l'urgence qui peut troubler les conditions de prise en charge. Vaccination, antibiotiques ont contribué à améliorer au niveau international l'espérance de vie, à faire reculer les maladies infectieuses, mais ce recul n'a pas bénéficié de façon équitable à l'ensemble de la population mondiale et ces progrès restent fragiles, comme l'a prouvé ces dernières décennies l'émergence d'épidémies, VIH-Sida, Ebola ou grippe aviaire, qui ont eu l'effet d'onde de choc dans un paysage sanitaire qui avait pu se croire, à tort, débarrassé du péril infectieux. Ce péril rappelle que la riposte ne doit laisser personne sur le bas-côté, car la maîtrise du risque infectieux à l'échelle planétaire passera d'abord par un renforcement des capacités de surveillance et de réponse des pays les plus pauvres. Et ce n'est pas du plagiat, hein, mais cette dernière phrase, je l'ai empruntée au discours que vous aviez prononcé le 31 janvier dernier à l'occasion de l'inauguration de la chaire Santé publique, cette chaire que vous occupez au Collège de France. Professeur Arnaud Fontanet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur au Conservatoire national des arts et métiers, chef de l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur et vous êtes également, professeur Fontanet, coordinateur du site de recherche de l'ANRS sur les hépatites virales en Égypte. Des maladies qui pèsent lourd en termes de mortalité au niveau planétaire et certaines régions du monde payent un lourd tribut. Nous allons rejoindre des spécialistes au Burkina Faso, au Gabon, en RDC. Le professeur Roger Sombier, gastro-entérologue et pathologue à l'hôpital Yelgado Ouédraogo de Ouagadougou. Le professeur Marielle Bouillou, médecin biologiste, professeur de parasitologie mycologie, chef de département de parasitologie médecine tropicale à la faculté de médecine de l'Université de sciences de la santé de Libreville. Et puis, on parlera également avec le professeur Steve Aouka, chef de département de virologie à l'Institut national de recherche biomédicale et médecin microbiologiste aux cliniques universitaires de Kinshasa. Et en fin d'émission, vous retrouverez la chronique du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo, bien sûr. Vos questions, vous pouvez les poser sur la page Facebook de l'émission.
Priorité santé sur RFI.
Alors nous irons tout à l'heure à Ouagadougou pour parler des hépatites, Libreville pour parler du paludisme, Kinshasa pour parler de la maladie à virus Ebola, infection, épidémie, compréhension de ces maladies avec des nouveaux outils hein, qui permettent aux scientifiques de fournir des photographies plus ou moins précises de l'état de santé de la planète. Estimer donc ce risque en santé publique. C'est la définition que vous avez donnée de l'épidémiologie lors de ce discours, hein, de cette leçon inaugurale au Collège de France. Épidémiologie qui s'appuie sur des données, sur des études. Est-ce qu'on peut dire, professeur Arnaud Fontanet, que c'est la première des inégalités, savoir précisément de quoi sa population, notre entourage souffre, connaître l'état des lieux?
C'est vrai que typiquement, les systèmes de santé répondent à l'urgence la plus immédiate qui est de traiter les personnes. Quand elles sortent un petit peu la tête de l'eau, les systèmes de santé s'organisent pour la prévention. Et puis vraiment, quand on veut avoir tous les outils de pilotage, à ce moment-là, on se dote d'un système de surveillance qui nous permet de suivre, si possible en temps réel, l'évolution des différentes maladies de façon à pouvoir, d'une part, cibler les actions et puis d'autre part, de voir les progrès qui sont faits en réponse à ces actions. Mais comme vous le dites très bien, le système de surveillance, c'est finalement le luxe d'un pays qui a déjà pu répondre aux premières urgences qui sont d'abord de traiter les personnes malades.
Alors qu'on pourrait se dire de façon logique que la chronologie, elle devrait être inverse. D'abord savoir ce qui se passe pour savoir traiter.
Exactement, mais c'est juste la différence qui existe entre ceux qui ont la possibilité, parce qu'ils en ont les moyens, de s'extirper de l'urgence du quotidien pour s'organiser, de ceux qui doivent pallier au plus pressé malheureusement.
Alors vous avez consacré entre février et mars dernier une série de conférences, de leçons, de cours, professeur Arnaud Fontanet, aux pandémies, pour bien expliquer aux auditeurs tout d'abord, différence, épidémie, pandémie, c'est quoi la différence ?
Alors une épidémie, c'est un nombre anormal de cas d'une maladie donnée, donc ça peut être, par exemple pour la grippe, on le voit chaque année à la saison hivernale, une augmentation importante du nombre de cas de grippe, et là on parle d'épidémie. Une pandémie, c'est une épidémie qui touche plus d'un continent, donc qui commence à se généraliser à l'échelle de la planète.
Alors les infections, on en parle depuis toujours, on en parle en particulier quand on s'intéresse à la santé en Afrique, et pourtant il n'y a pas que ce péril infectieux, on peut dire aujourd'hui véritablement qu'il y a une transition sanitaire ou épidémiologique avec justement ce qu'on désigne comme un double fardeau, professeur Fontanet.
Voilà, donc l'Afrique connaît aujourd'hui ce qu'on appelle une transition épidémiologique, qui est un passage d'une prédominance des maladies infectieuses vers les maladies chroniques. Ce qu'on entend par la maladie chronique, ce sont les maladies cardiovasculaires, les cancers, à terme les maladies neurodégénératives. Alors ce passage, il s'effectue actuellement parce qu'on a connu, heureusement, une baisse importante des maladies infectieuses sur le continent africain. Dans les 30 dernières années, notamment, la mortalité chez les moins de 5 ans a été divisée par 2. Et là, c'était les pneumonies, les diarrhées et le paludisme qui étaient les grandes tueuses pour ces enfants. Et grâce au vaccin, grâce à la lutte contre le paludisme, on a réussi à faire reculer de façon importante cette mortalité par maladie infectieuse chez les plus jeunes. De fait, l'espérance de vie a globalement augmenté sur le continent africain de 10 ans à peu près depuis l'an 2000, ce qui est considérable. Et maintenant, alors que les populations atteignent des âges plus âgés, on voit apparaître ces maladies chroniques, cancers et cardiovasculaires notamment.
Avec aussi le facteur social, des changements dans les habitudes de vie, des changements dans l'alimentation, tout ça se combine. Et malgré tout, même s'il y a ces maladies chroniques qui sont apparues, qui se sont installées, on peut dire, même dans le paysage sanitaire, le risque infectieux, eh bien, il est toujours là. Parce que même si, par exemple, les pneumonies ont fortement reculé chez les enfants, ça tue encore des centaines de milliers d'enfants tous les ans. Et certaines de ces menaces sont loin d'être irréelles. Alors comment justement on en parle sans être alarmiste ? On dit qu'il y a eu des progrès, des centaines, voire des millions de vies d'enfants sauvées, sans être alarmiste, mais en même temps en disant qu'il faut continuer parce qu'il faut beaucoup mieux faire.
Alors, on a connu exactement le même phénomène dans les pays industrialisés. On a cru qu'on s'était débarrassé des maladies infectieuses à la fin du XXe siècle grâce aux progrès de l'hygiène, aux vaccins et aux antibiotiques. Et puis on s'est rendu compte que les maladies infectieuses, elles étaient toujours parmi nous. D'abord, il y a ces maladies qu'on appelle émergentes, c'est-à-dire des nouveaux virus qui passent le plus souvent de population animale vers l'homme et qui sont responsables d'épidémies, voire de pandémies. Donc c'est typiquement le sida, hein, dont les premières manifestations chez l'homme ont été identifiées vers la fin des années 70, hein, mais qui a probablement été présent un peu plus tôt. Et puis il y a eu Ebola en 76 en République démocratique du Congo. Et puis on a vu depuis de nombreuses émergences à la surface de la planète. Vous rappelez peut-être les pneumopathies du SRAS en Chine, le MERS qui est aussi des pneumopathies au Moyen-Orient, et puis la grande grippe de 2009. Bref, on a ces émergences infectieuses de façon très régulière qui nous rappellent effectivement que ces maladies sont capables de revenir de façon extrêmement brutale. Et en toile de fond, persiste toujours, et notamment sur le continent africain, un certain nombre de maladies infectieuses qui pèsent très lourd en termes de mortalité. On va parler aujourd'hui du paludisme, c'est 400 000 morts par an, hein, 1000 par jour, essentiellement sur le continent africain. Ce sont également les hépatites virales chroniques, dont on parle beaucoup moins, qui tuent chaque année 1 million de personnes dans le monde, 100 000 en Afrique. Et là, il faut savoir que ces maladies, il existe des outils pour y répondre et qui malheureusement ne peuvent pas être mis en place partout comme on le souhaiterait.
Et justement, on en reparlera tout à l'heure en raison justement de la fragilité, voire dans certains pays, du chaos du système de santé. Une dimension de communication, vous avez cité ces maladies dont on a parlé beaucoup sur un petit laps de temps. Est-ce que justement, quand on est épidémiologiste, on s'intéresse aussi de la façon dont on parle des maladies, rendre, on l'a compris, l'information accessible, mais savoir aussi comment en parler, parce que dans certains cas, on peut même arriver, professeur Arnaud Fontanet, à une sorte d'hystérie, voire de panique collective, où on surestime un risque.
Alors c'est vrai que par rapport à ces émergences, il y a toujours des inquiétudes, de l'anxiété, parce qu'on est devant un phénomène nouveau, qu'on ne sait pas quelle va être son ampleur. Donc toute nouvelle épidémie qui apparaît suscite immédiatement une réaction à la fois dans la population, véhiculée beaucoup par les médias, également du côté des pouvoirs politiques qui s'interrogent et qui se disent, et rappelez-vous la grande crise liée au virus Ebola 2013-2014 en Afrique de l'Ouest, qui a été déjà un drame local. On était dans trois pays qui vivaient une situation extrêmement difficile en termes de pauvreté ou d'instabilité civile.
Guinée, Sierra Leone, Liberia.
Exactement. Et la crainte pour les pays industrialisés, il ne faut pas se voiler la face, de voir cette maladie exportée vers l'Europe et les États-Unis, qui a justifié une mobilisation mondiale, là où d'autres pourraient dire, attendez, on a d'abord besoin de renforcer les systèmes de santé de ces pays pour mieux prévenir ce type d'épidémie, car c'est de là que viendra la solution à terme pour éviter ces émergences.
Parce que si on regarde sur le papier, je me suis renseigné avant de préparer cette émission, au moment où Ebola tuait en Guinée, le paludisme tuait davantage en Guinée, tout simplement.
Alors, ce qui est vrai par rapport à une maladie comme Ebola qui se contracte notamment dans les milieux hospitaliers, c'est que pour les populations locales, aller à l'hôpital représente un risque dès qu'ils ont de la fièvre, parce qu'ils se disent déjà je peux être diagnostiqué avec Ebola, ce qui évidemment fait peur. Ils savent que 80% des personnes qui rentrent dans un hôpital avec un diagnostic d'Ebola vont y mourir. Et les autres qui ont de la fièvre, ne sachant pas exactement quelle maladie ils peuvent avoir, ne vont pas aller consulter.
Ça abîme toute la prise en charge.
Et n'étant pas allé consulter quand vous avez une fièvre qui est liée à un paludisme, eh bien vous pouvez en mourir. Et effectivement, comme vous le dites, il y a eu plus de morts liées au paludisme par absence de prise en charge pendant l'épidémie d'Ebola que liée à l'Ebola lui-même. Il y a eu aussi, en termes de mortalité maternelle, des femmes enceintes, qui toute la perturbation des soins. On a chiffré aussi une mortalité maternelle et infantile beaucoup plus importante que d'habitude pendant cette période, du fait de la déstructuration des prises en charge dans les hôpitaux de la région.
Alors, première illustration dans cette émission, premier exemple, on part tout de suite pour la République démocratique du Congo.
RFI.
Et on vous retrouve en ligne, professeur Steve Aouka, bonjour.
Bonjour.
Chef de département de virologie à l'Institut national de recherche biomédicale, médecin microbiologiste aux cliniques universitaires de Kinshasa. On le sait, l'Est de la RDC qui fait toujours face à cette épidémie de virus Ebola. 10 mois maintenant que l'épidémie s'est installée dans le Nord Kivu, dans une moindre mesure dans la région, dans la province de l'Ituri. Professeur Steve Aouka, où en est au moment où nous parlons cette épidémie ?
Merci beaucoup pour l'intérêt et la de m'associer à cette émission. Alors, à la question où on en est, la situation reste préoccupante, dans le sens que l'épidémie évolue à plusieurs vagues. D'abord, elle avait commencé à Mangina, dans la zone santé de Mabalako, au nord Kivu. Et cette première vague a été rapidement maîtrisée du mois d'août vers le mois de septembre et elle a coïncidé avec le début de l'épidémie le 1er août de l'année passée. Mais le contrôle de cette épidémie dans cette zone n'avait pas empêché son expansion à Beni, qui est une cité beaucoup plus grande que la zone de Mabalako, et où on a assisté à une deuxième vague entre septembre et novembre. Et cette vague a été associée à la résistance communautaire et a été plus difficile à contrôler, avec comme conséquence l'exportation de l'épidémie vers d'autres zones de santé, vers Butembo, qui a conduit la troisième vague à partir du mois de décembre.
Alors, trois vagues différentes qu'on ne peut pas non plus dissocier dans l'évolution de la situation au contexte local, qui a beaucoup perturbé les choses. Il y a eu les événements politiques avec l'organisation et le report des élections. Et il y a eu aussi la persistance des violences régionales avec l'impact sur les déplacements de population.
Exactement, c'est ça qui rend le contrôle de cette maladie très difficile. Il y a la sécurité, il y a le contexte politique, mais plus important, il y a cette résistance communautaire qui prend plusieurs facettes et dans le temps et pour lesquelles il faut chaque fois adapter les stratégies de manière à pouvoir faire comprendre à la population. Alors, une quatrième vague, je disais, revient maintenant où on assiste à la réintroduction de l'épidémie dans des zones qui étaient déjà contrôlées, comme il y a quelques semaines à Manguina, et pour le moment, c'est à Béni. Donc ça rend encore très complexe la situation, et ça s'est favorisé par le mouvement de population qui est très intense dans cette partie de notre pays.
Alors on comprend bien que vous employez l'adjectif de situation préoccupante, professeur Steve Aouka. Vous parliez de cette résistance communautaire à la riposte. Comment est-ce que cela se manifeste-t-il ?
Alors, de manière brève, c'est que la communauté qui, soit ne comprend pas, soit n'a pas suffisamment été expliquée, ou les deux à la fois, rejette toutes les activités de la riposte. Ça peut aller au refus d'accepter d'aller dans le centre de traitement, au refus de se faire vacciner, mais ça peut dégénérer et prendre des formes assez dramatiques, comme c'est vu l'attaque des agents de riposte, y compris certaines destructions des symboles de la riposte et même au meurtre des agents commis à cette riposte, comme on a vu il y a quelques mois à Béni. Donc, et ça rend la riposte très complexe et multi, pour lesquels il faut considérer tous ces aspects afin d'arriver à son contrôle.
Alors justement, professeur Steve Aouka, l'un des volets seulement de la riposte, c'est la vaccination, la campagne de vaccination, avec également dans la prise en charge l'usage de médicaments expérimentaux. Comment justement vous pouvez nous décrire ces moyens qui sont mis en œuvre pour les populations qui sont concernées ?
Alors une des plus grandes, un des plus grands bénéfices de cette épidémie, c'est qu'on a utilisé les grandes innovations qui n'ont jamais été utilisées depuis les épidémies anciennes. Vous avez parlé de la vaccination, pour laquelle on a déjà pu vacciner un peu autour des 150 000 de manière globale, et qui a montré son efficacité. Nous avons les traitements expérimentaux en termes des molécules expérimentales qui sont, depuis dès les premières heures de l'épidémie, été utilisées pour tout cas confirmés. Nous avons certaines approches diagnostiques qui permettent de déployer sur le terrain de l'épidémie les machines qui contribuent très rapidement à diagnostiquer et à faire isoler les malades. Mais plus intéressant, nous faisons du séquençage sur terrain afin d'aider la surveillance à mieux comprendre les chaînes de la dynamique de transmission. Et ce n'est pas facile dans un contexte où les gens bougent beaucoup, où il y a des attaques armées avec dispersion des personnes. Et malgré ces différentes stratégies, il y a encore des choses à améliorer. Pas plus tard que la semaine passée, nous avons débuté à discuter de l'éventualité d'ajouter un deuxième vaccin qui pourrait compléter les bénéfices qu'on a déjà avec le vaccin qui est utilisé pour le moment.
Professeur Steve Aouka, 10 mois d'épidémie, une dernière question. S'il n'y avait qu'une recommandation à faire à celles et ceux qui nous écoutent et qui se trouvent aujourd'hui dans cette zone épidémique, quel message est-ce que vous voulez leur transmettre ? Vous nous écoutez, que ce soit à Boutembo, à Béni, dans la zone. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger, professeur Aouka ?
Alors, le grand message, c'est que la population, c'est elle qui est la première arme contre cette épidémie. C'est sa compréhension, son implication et surtout sa participation aux activités de la lutte qui vont aider à juguler cette crise. Quelles que soient les méthodes que nous allons utiliser, si la population ne participe pas, ne s'implique pas, ces méthodes, ces stratégies ne vont pas aboutir. Donc j'invite la population à participer et à aider les équipes de riposte à pouvoir juguler cette maladie qui, dans le mois prochain, ce sera déjà une année.
Merci beaucoup, professeur Steve Aouka. Merci d'avoir été en ligne avec nous de Kinshasa. Vous êtes également professeur à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa.
RFI à Kinshasa, 105 FM.
On poursuit cet échange avec vous, professeur Arnaud Fontanet, professeur à l'Institut Pasteur. On vient de parler d'Ebola, vous l'avez dit, en 1976, première épidémie. Et on l'a entendu avec le professeur Aouka à Kinshasa. Comprendre la maladie, essayer de trouver les différents remèdes, les différents protocoles. Mais on l'a entendu, ce qui est essentiel, c'est aussi la sensibilisation, la pédagogie, faire comprendre ce qui se passe aux populations.
Alors, je voudrais déjà d'abord saluer le travail absolument remarquable qui est fait par les équipes congolaises actuellement, et parce qu'ils travaillent dans des conditions très très difficiles, et grâce à eux, pour l'instant, l'épidémie est en partie contenue. On est aujourd'hui à peu près sur 2500 cas sur 11 mois d'épidémie. C'est un travail sans relâche, très difficile, très ingrat, et une fois de plus, je veux les saluer parce que vraiment, grâce à eux. Voilà, l'épidémie n'a pas débordé au-delà de ce que on connaît aujourd'hui. Ce qui a changé fondamentalement par rapport aux toutes premières épidémies, qui avaient lieu dans des endroits très reculés d'Afrique centrale, comme la première épidémie à Yamboukou, hein, près de la rivière Ebola, c'est que maintenant, le virus, il arrive dans des villes de taille importante. Hein. Béni, c'est près d'1 million d'habitants. Si vous vous rappelez l'épidémie d'Afrique de l'Ouest de 2013-2015, eh bien, on était sur des capitales, hein, des trois pays touchés. Donc, on doit faire maintenant du contrôle épidémique dans des zones urbaines, densément peuplées. Et vous imaginez à quel point cela complique le travail de base qui consiste à identifier les patients, les isoler, et puis tous leurs contacts. Et maintenant, on a un vaccin, vacciner les contacts. Donc tout ça, quand vous le faites en zone urbaine, dans un climat hostile, c'est très difficile. Et on est vraiment amené de plus en plus face à ce type d'épidémie à devoir les gérer dans des zones très densément peuplées et où les populations sont mobiles. Donc la participation de la population est essentielle, et on fait de plus en plus appel à des collègues anthropologues qui viennent aux côtés des équipes de soins classiques pour essayer de mieux comprendre localement comment est perçue cette maladie, afin d'adapter les messages de communication et de prévention aux populations, parce qu'il y a d'énormes incompréhensions. Pour nous, on sait bien sûr que c'est une maladie transmise par un virus, on connaît les modes de transmission de ce virus, etc. Mais pour beaucoup des populations locales, ces notions ne sont pas connues.
Il peut y avoir
une dimension mystique, on peut parler de sorcellerie. Et si vous ignorer totalement ces faits, eh bien votre communication ne passera pas du tout. Donc il faut au contraire essayer de la comprendre et de l'intégrer dans ses messages. Des grands progrès ont été faits notamment parce que beaucoup de transmissions avaient lieu au moment des rites funéraires, quand les familles nettoyaient les corps et participaient donc à l'enterrement, et étaient donc au contact des patients juste décédés, alors que ces patients, leur fluide biologique est extrêmement contagieux. Au début, on a voulu complètement empêcher ces rites funéraires, etc., mais pour les populations, c'était important. Donc, ils partaient finalement avec les corps du défunt et le faisaient de façon clandestine et se contaminaient. Maintenant, on accompagne au contraire ces rites funéraires pour les permettre dans des conditions qu'on appelle dignes et sécurisées. C'est-à-dire qu'à la fois, on respecte les morts et les traditions et en même temps, on évite les contaminations des proches en leur permettant de pratiquer ces rites dans des conditions beaucoup plus satisfaisantes.
Alors, on a pointé la dangerosité, hein, et puis aussi le côté très émotionnel, forcément associé à ce type de virus. D'autres infections, elles provoquent des pertes très conséquentes sans forcément attirer les regards. Ces maladies qui avancent à bas bruit, tout de suite, illustration avec les hépatites. Et pour en parler avec nous, professeur Roger Sombier, bonjour.
Bonjour.
Professeur Sombier, gastro-entérologue et pathologue à l'hôpital Yalgado Ouédraogo d'Ouagadougou. Professeur Sombier, des hépatites au pluriel, hein, avec la question, pour certaines d'entre elles au début, de l'absence de symptômes, ce qui peut favoriser la transmission et bien sûr les complications.
Oui, c'est bien ça. C'est exactement ça, en sachant que les hépatites qui sont silencieuses, lentes effectivement à se développer et qui se diagnostiquent en tout cas pour notre part en pratique clinique au stade de complications, essentiellement cirrhose et cancer du foie, ce sont les virus B et C. Nous avons très peu de virus Delta dans notre pays, mais effectivement c'est de gros problèmes par rapport aux hépatites virales. Ce sont des maladies silencieuses et qui se diagnostiquent tardivement.
Alors,
l'hépatite
B, professeur Sombier, véritable question de santé publique hein, sur le continent africain, même si beaucoup de gens ignorent qu'ils sont concernés. Justement, à quel moment de la vie cette maladie est-elle contractée?
Ben, essentiellement dans les pays africains, donc dans mon pays, la maladie est contractée très tôt. Donc la maladie est transmise le plus souvent de la mère à l'enfant. Donc l'infection survient soit à la naissance ou dans la petite enfance en raison d'une promiscuité, un espace de vie familial réduit, donc qui favorise les contacts. Et le facteur clé en fait de cette infection qui va durer quasiment toute la vie, donc c'est l'âge de l'infection. Donc plus on est infecté en bas âge, à la naissance, il y a une tolérance de l'organisme vis-à-vis du virus B. Et donc le sujet va rester porteur du virus toute la vie. Alors que dans les pays occidentaux, l'infection est acquise plus tard à l'âge adulte. Et là, les chances de guérison sont beaucoup, beaucoup plus importantes.
Alors, professeur Sombier, justement, à quelle occasion ces patients qui souvent ont attrapé la maladie lorsqu'ils étaient tout bébés, à quelle occasion ces personnes prennent-elles connaissance de leur statut, comprennent-elles qu'elles ont attrapé l'hépatite B?
Alors, jusqu'à récemment, la plupart des patients, pour ma part et mes collègues également en pratique, c'était lors d'un bilan de santé et surtout lors d'un don de sang, puisque la maladie est silencieuse, donc ils n'ont pas de symptômes. Et donc, quand ils font un don de sang, qu'on découvrait, donc ils étaient infectés par le virus de l'hépatite B, ils étaient adressés pour une consultation. Donc, ça représentait plus de la moitié des patients que nous recevions. Mais avec les différentes campagnes de dépistage, de sensibilisation avec la journée mondiale de lutte contre les hépatites virales instituée par l'OMS le 28 juillet, nous avons maintenant de plus en plus de patients que nous recevons suite à un dépistage fait systématiquement parce que ils ont par voie de médias dans l'entourage ou ils ont un membre de la famille qui s'est fait dépister, qui était positif et qui a partagé l'information avec la famille. Et très souvent, l'âge moyen de dépistage, c'est au-delà des 20 ans, 30 ans, 40 ans.
Alors, professeur Sombier, quelles peuvent être les conséquences lorsque la maladie se déclare, lorsque l'on n'a pas été dépisté et pris en charge auparavant?
Les conséquences, elles sont connues. Le foie, c'est un organe silencieux qui ne fait pas de bruit. Il nous rend de grands services. Et les conséquences, c'est essentiellement, comme je l'ai déjà dit, la cirrhose, en fait, qui est un état de destruction du foie, qui n'arrive plus à assurer donc sa fonction essentielle. Et la cirrhose en elle-même peut se compliquer de cancer du foie. Donc, en pratique, ça nous donne en fait en hospitalisation. Cirrhose et cancer, c'est le premier motif de consultation dans le service. C'est la moitié des lits, voire parfois 70-80% des malades. Et la mortalité en cas de cancer du foie institué, c'est quasiment 80% des malades parce qu'ils sont à un stade donc, qui est au-delà de toute thérapie curative. Donc, c'est un véritable drame en pratique chez nous.
Alors, professeur Roger Sombier, on comprend, on dit aux auditeurs, eh bien, on les incite à se faire dépister pour ne pas, bien sûr, en arriver là. Mais il faut payer. Combien coûte ce bilan pour avoir, justement, connaissance de son statut, savoir si, oui ou non, on est concerné par l'hépatite B?
Le gros problème, c'est que le bilan et le traitement est à la charge de la majorité des patients. Et le bilan minimal, en fait, pour l'hépatite B, il va de 75 000 francs CFA, c'est-à-dire plus de 110 euros, à 130 000, c'est-à-dire 200 euros. Ça, c'est vraiment le bilan minimal pour avoir, on va dire, les éléments essentiels s'il faut traiter ou surveiller. Mais si on veut faire un bilan plus complet, ça va aller donc du simple au double par rapport à ce bilan minimal.
Professeur Sombier, c'est beaucoup trop cher pour le Burkinabé moyen. C'est impossible de débourser une telle somme, d'autant plus que ce n'est pas pour se soigner, mais c'est pour juste essayer de savoir si on est concerné. Donc j'imagine qu'à la maison, au foyer, on a d'autres priorités sur le budget familial.
Mais vous avez raison. Donc c'est effectivement le vrai boulot d'étranglement, le nœud gordien que nous avons face à la prise en charge des hépatites virales. Donc actuellement, les tests diagnostiques pour l'hépatite B coûte plus cher, en fait, même que le médicament. Donc, le test diagnostique, si vous voulez, essentiel, on va dire simple, pour savoir si on est infecté, c'est l'antigène HBS. Le test, il coûte 5 000 francs CFA, ça fait plus de 7 euros. Alors que la boîte de ténophobie que nous avons, qui est efficace pour traiter le virus B, elle fait 2800 francs CFA, soit 4 euros.
Peut-être qu'il faut communiquer dans ce sens, de dire l'investissement est assez important pour savoir, mais une fois que vous saurez, ça ne vous coûtera pas si cher de vous traiter avec toutes les conséquences que cela peut avoir pour votre santé. Mais néanmoins, professeur Roger Sombier, l'essentiel, c'est de développer un système de santé qui puisse prendre en charge ce type de dépenses.
Je suis d'avis avec vous, et donc ça, c'est dans ce cadre que nous avons un plan stratégique qui a été mis en place en 2017, un programme national hépatite virale qui date de 2018, et avec le ministère de la Santé, les différents partenaires, nous travaillons à ce niveau pour essayer donc d'améliorer l'accessibilité diagnostique et au traitement pour les patients. Le vrai problème, c'est qu'il faut vraiment avoir les tests diagnostiques à un prix réduit. Il faut réduire les marges, en fait, donc des laboratoires et des différents partenaires au minimum strict. Et c'est ça le vrai problème. Il faut effectivement pouvoir arriver à une couverture santé universelle pour nos populations. Mais là, il faut l'engagement des politiques. Il faut l'engagement de tous, la société civile, les médias, les entreprises publiques et privées, pour que nous puissions, on va dire, gagner la bataille contre les hépatites virales et protéger les générations futures dans nos pays africains.
Un message qu'on essaye bien sûr de faire passer avec vous. Merci beaucoup, professeur Roger Sombier. Merci pour ces explications. Je rappelle que vous êtes gastro-entérologue et pathologue à l'hôpital Yael Gado Ouédraogo de Ouagadougou.
RFI à Ouagadougou. 94 FM.
Vous avez suivi cet échange, professeur Arnaud Fontanet. Vous avez particulièrement travaillé sur l'épidémie d'hépatite C en Égypte. Pourquoi spécifiquement ce pays d'Afrique ?
Alors, l'Égypte a connu une situation épidémiologique très particulière. Dans les années 60 et 70, le gouvernement égyptien a voulu éradiquer une maladie parasitaire qui s'appelle la bilharziose, qu'on contracte en marchant dans l'eau. Et vous savez que l'Égypte, toute la population vit au bord du Nil. Et quasiment toute la population était infectée par ce parasite qui était responsable de manifestations hépatiques ou urinaires. Et le traitement de l'hépatite C reposait sur des injections par voie intraveineuse de ce qu'on appelait des sels d'antimoine. Et malheureusement, dans cette campagne de masse de traitement qui a été réalisée en Égypte, les aiguilles et les seringues étaient insuffisamment stérilisées. On ne connaissait pas les modes de transmission à l'époque d'un certain nombre d'agents viraux, et dont le virus de l'hépatite C, qui lui se transmet avec le contact avec le sang d'une personne infectée. Il y avait malheureusement quelques personnes infectées par le virus de l'hépatite C au cours de cette campagne, et le virus s'est propagé. On estime que des dizaines à des centaines de milliers de personnes ont été infectées à ce moment-là, au point que quand le virus a été identifié en 1989, que les tests ont été disponibles dans le début des années 90, eh bien, en Égypte, à peu près 10%, 15% de la population adulte était infectée, et donc une situation tout à fait unique et dramatique vis-à-vis de ce virus pour l'Égypte.
Donc ce sont les autorités locales qui ont décidé de s'attaquer au problème.
Alors les autorités locales ont compris que ils étaient face à une des plus grandes menaces de santé publique pour la population. Là aussi, on est une maladie avec une incubation longue, comme l'hépatite B. Là aussi, à la fin, ce sont des cirrhoses et des cancers du foie qui vont emporter les patients, mais avant très peu de manifestations. Il y a eu successivement des travaux sur les modes de transmission du virus, parce qu'on a bien compris comment l'épidémie avait commencé, mais on se demandait comment est-ce qu'elle continue aujourd'hui, qui ont montré là encore que c'était dans le cadre des soins et le contact avec le sang, transfusion de sang, injection par voie intraveineuse, etc., que se faisaient les transmissions. Donc là, un gros travail de prévention a été fait sur l'utilisation de matériel à usage unique et la limitation du nombre d'injections qui étaient réalisées dans les soins courants. Et puis ensuite, il y a eu l'avènement des traitements. Et l'hépatite C a connu une révolution thérapeutique à partir de 2005, où des nouveaux antiviraux simples d'administration extrêmement efficaces sont devenus disponibles, avec plus de 95% de guérison, peu d'effets indésirables par voie orale.
Mais je vais vous couper parce qu'il y avait un mais. Le mais, c'était le coût, c'était énorme. Alors comment ont fait les Égyptiens pour mettre à la portée de leur population ce médicament qui coûtait excessivement cher?
Alors le gouvernement égyptien a commencé à négocier avec les compagnies qui développaient ces traitements. Au début, il y a eu une entente sur des prix différenciés, comme ce qu'il y a pu avoir pour le sida des années auparavant, où on s'était bien rendu compte que le poids des malades était dans les pays du Sud qui ne pouvaient pas payer des traitements de plusieurs dizaines de milliers d'euros par an. Là, la situation est un peu différente, parce que c'est un traitement de courte durée, on va dire 3 mois, mais qui représentait quand même une somme considérable dans les pays industrialisés, de 70 à 100 000 euros pour un traitement. Et le gouvernement égyptien a d'abord obtenu un accord pour faire descendre le prix de ces traitements fabriqués par des génériqueurs indiens à 1 000 euros le traitement, et puis maintenant produit ses propres génériques, au point que le prix du traitement est devenu 75 euros pour 3 mois de traitement et une guérison.
Comme quoi, quand on a une politique volontariste, ça peut marcher aussi.
Exactement.
Vous restez avec nous, on va tout de suite partir pour le Gabon, professeur Fontanet.
Priorité santé sur RFI.
Pour vous retrouver, professeur Marielle Bouilloux, bonjour.
Bonjour.
Et avec vous, nous allons parler du paludisme. Vous êtes professeur Bouilloux, médecin biologiste, chef du département de parasitologie, mycologie, médecine tropicale de la faculté de médecine de l'Université des sciences de la santé du Gabon. Alors, si on voulait dresser une carte du paludisme, on peut dire quand même que globalement, au niveau international, sur ces dernières décennies, professeur Bouilloux, la maladie a reculé.
Oui, la maladie a vraiment reculé. Vraiment reculé. On est quand même passé déjà d'à peu près 500 000 de cas au début des années 2000 à 239 millions, donc de moitié en 2010. Et en 2010 et 2017, on a quand même baissé de 20 millions à peu près, de 239 millions à 219 millions de cas. Le taux de décès aussi a énormément diminué. Et on est aujourd'hui à peu près 435 000 décès, ce qui représente moins de 50% du taux de décès à la fin des années 2000. C'était à peu près 1 million de cas de décès aussi.
Mais avec une extrême concentration de ces cas, hein, 90% sur le continent africain, 92% toujours des décès en Afrique, et on va dire une inflexion dans la baisse. On va dire on peut plus dire vraiment le paludisme recule, on peut dire le paludisme a reculé.
Oui, le paludisme a reculé. C'est vrai que ces deux dernières années, on observe une légère stagnation, mais globalement, il a reculé. Globalement, il a reculé, même s'il y a encore certains pays au sein desquels on observe une hausse des cas de paludisme.
Et comment on l'explique, professeur Marielle Bouilloux? Est-ce que vous diriez qu'il y a une sorte de relâchement dans la lutte, dans la riposte?
Relâchement peut-être, baisse de financement sûrement. Cette baisse de financement s'accompagne peut-être d'une mobilisation moins importante, d'une formation moins importante, parce que je pense que oui, parce que il y a une disponibilité de plus en plus importante de moyens diagnostiques, de traitements.
Et pour le cas particulier du Gabon, hein, où vous exercez, où est-ce qu'on en est, professeur Bouilloux?
Alors nous, comme certains pays, nous avons d'abord observé une diminution des cas du paludisme lorsque nous avons introduit les nouvelles thérapeutiques, plus nouvelles maintenant, les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine, et introduit la prévention chez la femme enceinte, la chimioprévention et le diagnostic du cas. Donc nous sommes vraiment passés d'une prévalence d'à peu près 40 à 50% au début des années 2000 à 13% dans les années 2008-2009. Mais du fait de la baisse de financement et donc, comme vous le disiez, d'une absence, d'une mobilisation un peu moins importante, on observe un rebond, carrément un rebond du paludisme avec une augmentation de la prévalence qui est passée aujourd'hui à près de 33%, et notamment des populations cibles, qu'on va dire, ce sont beaucoup plus les enfants de plus de 5 ans. Et on observe aussi des cas de paludisme rare chez les adultes.
Alors une reprise sur certaines populations de l'épidémie. En termes de recherche justement, du côté des avancées, est-ce qu'il y a du nouveau? Vous parliez de l'artémisinine qui est déjà employée en combinaison depuis un certain temps. Pour l'instant, le continent africain n'est pas concerné par des résistances à ces traitements, mais il y a de véritables craintes hein, de ce côté-ci.
Des véritables craintes par rapport aux résistances aux dérivés de l'artémisinine?
Absolument.
Non, parce qu'il y a quand même des surveillances, donc je pense que le problème ne se pose pas. Il y a des craintes tout simplement parce que, comme à l'exemple de la chloroquine et de la sulfadoxine pyrimethamine, lorsque les résistances ont mis 20 ans, 30 ans à s'établir ailleurs, elles ont mis moins de 15 ans à se propager de l'Afrique de l'Est à l'Afrique de l'Ouest, par exemple. Donc effectivement, le continent africain, les Africains, les chercheurs et les acteurs de santé africains devraient rester vigilants par rapport à cette résistance au brevet de l'artémisinine et puis continuer aussi à surveiller les résistances aux molécules partenaires qui sont effectivement le vrai problème en Afrique et qui justement sont une orientation dans la recherche aujourd'hui sur les résistances aux antipaludiques, c'est-à-dire il n'y a pas de résistance à l'artémisinine vraie, mais qu'en est-il des résistances partenaires? Est-ce qu'on a tout étudié? Est-ce qu'il n'y a pas de nouveaux marqueurs? Voilà.
Et un travail qui concerne bien sûr les produits, mais qui va aussi concerner, on va dire, la riposte avec la façon qu'ont les soignants, qu'ont justement les scientifiques d'approcher au plus près les communautés et de coller aux réalités de ces communautés. Quand on distribue des moustiquaires, quand on s'adresse à des mamans, quand on doit soigner des nouveau-nés, tout ça, il faut vraiment aller au centre de la communauté.
Exactement. Comme toutes les régions dans les pays en voie de développement, hein, on centralise d'abord toutes les actions dans les zones les plus accessibles, c'est-à-dire dans les zones urbaines. Et ce qu'on observe dans de nombreux pays, c'est que les communautés les plus reculées, les régions rurales, c'est elles qui aujourd'hui ont le poids le plus important du paludisme, c'est-à-dire le poids le plus important en termes de prévalence et même en termes de mortalité, de la difficulté d'accessibilité aux soins, de la difficulté de formation continue du personnel de santé et d'information aussi. Je pense que ces éléments sont importants dans la riposte que l'Organisation mondiale de la santé préconise pour lutter contre le paludisme. Notamment, justement, il y a un nouvel adage qui est « high burden, high impact », c'est-à-dire aller pousser la lutte là où la prévalence du paludisme et le poids du paludisme est le plus important, sont les plus importants.
Coller aux populations. Merci beaucoup, hein, professeur Marielle Bouilloux, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes chef de département de parasitologie, mycologie de la faculté de médecine de l'Université des sciences de la santé au Gabon.
RFI à Libreville, 104 FM.
Dernière partie de cette émission avec vous, professeur Fontanet. Les moustiques donc qui transmettent le paludisme et des moustiques, d'autres moustiques qui transmettent un virus comme Zika, c'est également l'un de vos sujets d'étude. Alors là, Zika, on en avait beaucoup entendu parler en 2015, quand une épidémie massive a touché le Brésil, et on voit régulièrement des cartes ici en France en disant « les moustiques arrivent, il y a peut-être un risque ». Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, on parle donc d'une autre famille de moustiques qui s'appelle Aedes, où en milieu tropical, la variété c'est Aedes aegypti, qui est très implanté dans les villes. C'est un moustique qui est devenu exclusivement anthropophile, il ne se nourrit plus que sur l'homme. Du coup, il est allé s'installer là où l'homme vit, et plutôt en périphérie urbaine, dans les endroits où il peut trouver des conditions satisfaisantes pour ses larves. C'est les récipients d'eau propre qui peuvent être des boîtes de conserve, des pneus, etc., et qui récupèrent l'eau de pluie et où les larves se pullulent. Donc là, ce moustique Aedes aegypti transmet non seulement Zika, mais aussi la fièvre jaune, un sujet important pour l'Afrique, chikungunya, ou la dengue. En France, on a un cousin de Aedes aegypti qui s'appelle Aedes albopictus, c'est le fameux moustique tigre. Alors lui, il est arrivé il y a une vingtaine d'années dans le sud de la France et puis il remonte le long des fleuves. Maintenant, il occupe la moitié sud de la France. Et il est capable de transmettre, on le sait, et on a déjà eu des cas de transmission qu'on appelle autochtones, hein, donc sur le territoire métropolitain français, la dengue et le chikungunya. En laboratoire, Aedes albopictus peut transmettre le virus Zika, pas très efficacement, moins bien que Aedes aegypti. En revanche, on n'a pas encore pris la main dans le sac. On n'a pas encore trouvé dans la nature un Aedes aegypti qui contenait du Zika, mais théoriquement, c'est possible. Il peut s'infecter en laboratoire et éventuellement transmettre. Et avec les cas importés, qui nous viendraient de voyageurs qui, par exemple, proviennent des Antilles ou d'autres pays où Zika circule, à ce moment-là, on pourrait avoir des cas importés en France. La situation mondiale sur le Zika est quand même très différente de celle qui était il y a 2 ans. Il y a eu une épidémie massive, notamment en Amérique latine, Amérique centrale et aux Antilles, mais elle a été tellement massive qu'il n'y a maintenant plus de personnes, suffisamment de personnes susceptibles pour permettre le démarrage d'une nouvelle épidémie. Donc on est passé à un niveau de transmission du virus beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas que ce qu'on a connu il y a 2 ans.
Je reviens au tout début de notre échange, hein, cette leçon inaugurale que vous aviez prononcée au Collège de France le 31 janvier, puis votre enseignement, études des pandémies, colloque vers les technologies du futur. Une question qu'on pose souvent aux élèves, moins souvent aux professeurs, je vous la pose quand même, professeur Arnaud Fontanet, après 6 mois, qu'est-ce que vous avez appris de cette expérience, même si vous enseignez bien avant, mais qu'est-ce que vous retenez de cette expérience ?
Celle du Collège de France.
Absolument.
Donc, pour moi, ça a été une expérience fantastique parce que ça a été l'occasion de poser un regard sur les 25 dernières années où j'ai beaucoup réfléchi en épidémiologie sans avoir jamais le temps de prendre de la distance et de me poser quelles sont les questions essentielles pour le futur notamment. Il y a aujourd'hui une mutation dans notre discipline avec l'arrivée de ce qu'on appelle les big data, les données massives, hein, grâce à des moyens de recueil de données beaucoup plus importants que ce qui existait auparavant. C'est d'abord les données du génome humain, hein, le séquençage du génome humain qui devient beaucoup plus facile et qui donc nous apprend beaucoup de choses sur notre susceptibilité génétique aux maladies. Et puis c'est toutes les données qu'on peut recueillir de notre environnement qui sont multiples et notamment les expositions environnementales. Donc la réflexion aujourd'hui, c'est de s'organiser pour pouvoir intégrer l'ensemble de ces nouvelles connaissances pour révolutionner notre discipline épidémiologique qui, je le rappelle, s'intéresse aux déterminants de la santé, hein, qui répondent à la question très simple, pourquoi est-ce qu'on tombe malade ?
Professeur Arnaud Fontanet, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes chef de l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur, professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers. On parle d'activité physique, hein, tout de suite dans Priorité Santé, on lutte contre la sédentarité. Avec vous, docteur Jean-Marc Sen, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Jean-Marc, vous allez nous parler d'une blessure très fréquente chez les sportifs, mais aussi chez madame et monsieur tout le monde. Il s'agit de l'entorse de cheville. Alors docteur Sen, cette fameuse entorse, c'est quoi au juste ?
Caroline, c'est une lésion des ligaments. Et les ligaments, vous savez, ce sont ces tissus qui relient les os entre eux. Et quand on va se tordre la cheville, on va plus ou moins abîmer ces ligaments, plus ou moins les faire céder en fonction justement de la gravité. Et ces ligaments sont pleins de terminaisons nerveuses, d'où la douleur. Et puis aussi plein de petits vaisseaux, d'où le gonflement qu'on peut voir à la partie externe de la cheville qui correspond en fait à un hématome.
Alors qu'est-ce qu'on fait ? Quelle réaction lorsque l'on s'est tordu la cheville, docteur Sen ?
Eh bien Caroline, il faut appliquer le protocole grec. Grec, c'est-à-dire, c'est un acronyme qui veut dire G pour glacer, c'est-à-dire on met une petite vessie de glace ou de la glace dans un petit sac plastique, on protège la peau, évidemment, pour éviter de l'abîmer. R pour reposer, donc faut arrêter de marcher ou de courir pour pas aggraver bien sûr la blessure. E, c'est pour élever, hein, il faut surélever la jambe et empêcher le sang finalement de stagner dans la cheville. Et puis C, c'est pour compresser, on utilise une petite bande cohésive qui serre légèrement, hein, autour de la cheville pour limiter le gonflement. Et puis on fait ça en attendant d'aller voir son médecin qui va palper des zones, qui va étudier certaines choses et qui du coup prescrira ou non d'ailleurs une radiographie.
Et du côté du traitement ?
Le traitement, ça dépend de l'importance de l'entorse, hein, du type d'atteinte. Alors, on va dire le stade 1, c'est le plus léger, il y a un simple étirement du ligament. Le stade 2, c'est un peu plus important, on a déchiré quelques fibres. Le stade 3, on a une rupture complète du ligament. Et en fait, ce traitement va être fonction finalement de l'importance. Ça va aller de la cheville élastique au strapping qui sera fait jusqu'à la botte rigide, pourquoi pas, en passant par la telle. Et puis, il ne faudra pas oublier aussi de faire un peu de kinésithérapie, hein, pour renforcer l'ensemble des muscles qui permettent de stabiliser cette cheville. Voilà. Alors j'espère qu'avec tous ces conseils, nos auditeurs pourront traiter parfaitement leur cheville.
Merci beaucoup docteur Jean-Marc Sen. Je rappelle que vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo et à très bientôt dans Priorité Santé. Notre émission qui touche à sa fin, merci à l'équipe qui la prépare chaque jour. Demain, nous allons parler de l'infertilité. C'est Raphaël Constant que vous retrouverez derrière ce micro. On attend bien sûr vos messages sur notre page Facebook, vos questions au 33 84 22 75 75. Et d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance qui assure la pleine forme de nos champions et championnes d'Afrique. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Écoutez.